RCF. Vous avez un nouveau message, Madeleine Vatel.
Suzanne est une femme belle et qui espère en Dieu, mais c'est aussi une femme qui va subir l'assaut de deux vieillards, deux sages respectés, une histoire croquée en un chapitre, le 13e du livre de Daniel. Et ce chapitre vous a particulièrement intéressée, Marie-Pierre Courneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France auprès de la paroisse de Montparnasse-Plaisance à Paris. Et vous nous parlez de l'histoire de Suzanne, violentée. Cette histoire est dans l'Ancien Testament, elle est même dans le livre de Daniel. Que nous raconte cette histoire de Daniel et que vient faire Suzanne dans tout ce récit ?
Alors l'histoire du livre de Daniel, elle est assez complexe. En fait, c'est plusieurs petites histoires côte à côte. Daniel, c'est un jeune homme juif qui, après le sac de Jérusalem et du temple par les Babyloniens au 6e siècle avant Jésus-Christ, a été emmené avec d'autres élites de Jérusalem. Il a été emmené à Babylone. Il était avec trois de ses camarades. Et tous les quatre, ils ont été sélectionnés parce qu'ils étaient beaux, ils étaient intelligents, ils étaient cultivés. Donc voilà, c'est vraiment l'élite hein, qui est emmenée à Babylone. Là-bas, ils sont très bien traités. Ils vont, on dirait, à l'université pour apprendre la culture et les coutumes de Babylone en Mésopotamie. Et puis l'idée, c'est qu'après, ils deviennent fonctionnaires du roi, conseillers. Et voilà, c'est une façon d'utiliser les conquêtes guerrières pour tirer profit des personnes les plus intéressantes. Et très vite, ce Daniel va s'opposer aux coutumes, en particulier religieuses, de Babylone. Il va refuser de manger la nourriture qu'on lui donne parce qu'elle n'est pas cachère. Et peut-être en récompense, le texte n'est pas très clair, mais en tout cas, Dieu lui offre la possibilité de comprendre les songes et de les interpréter. Ce qui, à l'époque, est quelque chose de très, très important. Et donc, il va, grâce à ça, acquérir une position de premier plan auprès du roi, parce qu'il est le seul qui est capable d'interpréter les songes et divers autres signes.
Et alors, dans cette cour du roi, il va être amené à vivre de nombreuses aventures. Alors, il est mêlé à l'une d'elles, un peu presque par hasard. Là, il y a une histoire de chronologie dans laquelle on ne va pas rentrer parce qu'il est tout jeune dans cette histoire que nous racontons aujourd'hui. En tout cas, Suzanne est aussi dans cet exil.
Tout à fait. Tout le livre de Daniel se passe à Babylone. Suzanne est aussi une jeune femme juive d'une famille très pieuse. Elle épouse un grand juif riche et très en vue à Babylone qui s'appelle Joachim. Et tout le livre de Daniel, c'est, comme d'autres livres de l'Ancien Testament, je pense au livre d'Esther en particulier, c'est des livres de diaspora qui racontent comment est-ce qu'on fait pour être juif dans un pays, dans un environnement qui ne l'est pas.
Et alors là, on comprendra aussi comment est-ce qu'on fait pour être juif et pour appliquer la loi de Moïse dans un pays qui ne l'est pas. On y reviendra parce que ça en fait partie et c'est annoncé quasiment au début du texte où la loi de Moïse est évoquée. C'est la loi dans laquelle a grandi Suzanne. Alors ce récit, est-ce que la place dans l'Ancien Testament, est-ce qu'elle est importante? Est-ce que l'auteur, on le connaît? Est-ce qu'on a des éléments un peu plus précis? Donc ce livre situé entre Ézéchiel et le livre d'Osée, est-ce que ça a un sens?
Alors, le livre entre Ézéchiel, c'est-à-dire les trois grands prophètes, et Osée, c'est-à-dire le premier des 12 petits prophètes, c'est une façon de dire que Daniel, on le reconnaît comme un prophète, me semble-t-il, mais c'est une situation qui n'est que dans les livres, dans les Bibles catholiques. Dans les Bibles, en particulier protestantes, mais surtout qui suivent le canon juif, le livre de Daniel n'est pas du tout à cet endroit-là.
Il est situé... il ne suit pas celui des prophètes. Est-ce que ça en dit quelque chose sur Daniel, alors,
tout à
sur
fait.
La considération
voilà. Alors, le canon de la Bible juive, ce qui correspond, on va dire, à notre Ancien Testament, est divisé en trois parties. La première partie qu'on appelle la Torah, qui correspond à notre Pentateuque. La deuxième partie qui s'appelle les prophètes, dans lequel il y a tous les prophètes. Et la troisième partie qui s'appelle les écrits, dans lequel il y a tout le reste. Les psaumes, par exemple, le livre d'Esdras et Néhémie, le livre d'Esther, le livre de Ruth, et le livre de Daniel est dedans.
Alors, ce qui est curieux aussi, puisqu'on évoque la place de ces textes, c'est que cette histoire de Suzanne, si on parle avec une protestante comme vous, ou si on parle avec une juive, cette histoire ne l'aurait pas forcément connue. En tout cas, elle n'est pas présente dans leur livre.
Tout à fait. Le chapitre 13 du livre de Daniel qui contient l'histoire de Suzanne n'existe pas dans la Bible hébraïque et donc n'a pas été reprise dans l'Ancien Testament protestant.
Alors ça, c'est quand même curieux. Est-ce que ça s'explique ?
Alors ça s'explique, oui, c'est un texte qui existe dans les traductions grecques de l'Ancien Testament et qui sont celles que l'Église catholique a choisies pour son Ancien Testament, alors que les protestants, vraisemblablement par opposition au XVIe siècle à l'Église catholique, ont choisi de se référer à l'Ancien Testament hébraïque, à la Bible hébraïque, aussi pour être le plus proche possible des racines hébraïques de la Bible.
Oui, ce texte n'aurait pas été composé en hébreu, il n'a été retrouvé qu'en grec, c'est ça ?
Il n'a été retrouvé qu'en grec, alors on ne va pas non plus peut-être rentrer dans cette discussion-là. Mmh. Certaines personnes pensent qu'il a quand même une facture très sémitique et qu'il a peut-être été écrit en hébreu ou en araméen, parce que c'est un texte vraisemblablement assez récent. Mais en tout cas, nous, on ne l'a qu'en grec.
On aurait pu penser que c'est parce qu'il a un caractère assez choquant, mais on y reviendra. En tout cas, ce n'est pas pour cette raison qu'il n'a pas été gardé. Alors, ce récit, si on plonge donc dans ce livre de Daniel, chapitre 13, c'est un récit qui est autour de cette histoire de Suzanne. Alors, je disais que c'est croqué parce que c'est vrai que c'est un récit assez haletant. Il est écrit de manière vive. Les épisodes se succèdent, il y a du rebondissement, il y a des personnages. C'est très vif.
On pourrait même dire qu'il y a du suspense.
Il y a du suspense. Et tout cela nous permet de découvrir qui est cette Suzanne et notamment aussi la place de la justice, ce qu'est la sagesse, qu'est-ce qui fait de quelqu'un un ancien, etc. Des vraies questions qui sont posées dans ce texte. On revient à Suzanne, son portrait. Il y a un portrait physique spirituel au tout début. Elle est belle, elle craint le Seigneur. Et ça va être une trame du récit.
Alors oui, c'est très important. Elle est présentée comme appartenant à une famille. On précise que ses parents sont justes.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire pieux. Ça veut dire qu'ils suivent les enseignements de Dieu. De nos jours, on dirait qu'ils sont justifiés, peut-être. C'est cette idée-là. Et ils ont instruit leurs filles. Voilà, donc on voit qu'à cette époque-là, les filles, elles avaient parfaitement accès aux enseignements de la Bible. Et il y a un petit peu deux côtés dans cette précision du fait qu'elle vient d'une famille pieuse et qu'elle est elle-même très pieuse et très instruite des affaires divines. Donc évidemment, c'est très positif, mais c'est aussi une des raisons qui fait que, à la fin, on va vraiment la croire. C'est-à-dire que c'est comme, moi, ça me fait penser de nos jours aux victimes qui sont obligées de prouver leur moralité pour qu'on les croie.
Et alors, si vous êtes intéressé à ce récit, c'est parce que il y a dans ce récit une violence verbale, une violence physique.
Et morale et psychologique, très
morale
forte.
Et psychologique. Alors, en deux mots, avant qu'on rentre vraiment dans le détail du récit, que se passe-t-il avec Suzanne ? Que va-t-il lui arriver ?
Alors, Suzanne est donc une très belle femme, on va voir que ça compte aussi, juive, qui vit à Babylone. Elle a épousé Joachim, un mari juif, très riche et très réputé. Comme il est très riche et très réputé, toute la population de Babylone se réunit régulièrement chez lui. On pourrait dire qu'il tient salon d'une certaine façon. Et en particulier, c'est chez lui que vraisemblablement se tiennent un certain nombre de procès. Et dans les personnes qui viennent chez lui, il y a deux anciens, c'est-à-dire deux personnes âgées, donc très respectées, qui sont des juges, qui viennent d'être nommés juges et qui exercent leur métier de juge chez Joachim. À cette occasion, ils croisent à plusieurs reprises Suzanne et ils sont tous les deux pris d'un désir fou pour elle. D'abord chacun de son côté, puis ils finissent par s'en parler, voir qu'ils ont la même attirance. Et du coup, à deux, ils se sentent évidemment beaucoup plus forts et ils mettent au point un stratagème pour pouvoir s'approprier Suzanne, qui, quand toute la foule que reçoit son mari est partie, en fin d'après-midi, elle se promène dans son parc où il y a une fontaine. Et quand il fait très chaud, eh bien, elle se baigne dans la fontaine. Donc les deux juges réussissent à se faire enfermer dans le parc et à surprendre Suzanne, qui est en train de se baigner dans la fontaine. Donc évidemment, elle est nue. Et à lui mettre c'est une espèce de chantage en main. C'est-à-dire, soit tu acceptes de coucher avec nous, soit on te dénonce pour adultère. On dira qu'on t'a surprise en train de coucher avec quelqu'un. Que ce soit la première solution d'être violée ou la deuxième d'être accusée d'adultère, de toute façon, pour Suzanne, c'est la peine de mort. Et donc, elle décide, comme ça, en quelques secondes, puisque de toute façon elle va mourir, elle décide de mourir sans être violée, et donc elle prend l'option d'être accusée d'adultère. Les deux vieux se mettent alors à crier, à appeler tout le monde, et ils disent tout de suite, voilà, on vient de la surprendre dans les bras d'un homme. Et puis, presque en deux temps, trois mouvements, tout le monde arrive, espèce de tribunal public, et Suzanne est condamnée à mort. Évidemment, sans qu'on lui demande sa version de l'histoire. Et c'est là que Daniel apparaît, donc tout à fait à la fin de l'histoire. Daniel apparaît en disant, mais enfin, vous n'avez pas fait les choses comme il faut, vous n'avez pas fait un vrai procès, moi je veux interroger les deux vieillards, ce qu'il fait, leurs témoignages ne sont pas concordants, et voilà, ça révèle la supercherie, c'est eux qui sont mis à mort et Suzanne est sauvée.
Justice sera faite, et donc une histoire qui se termine bien, mais avant, on l'entendait dans votre récit, il y a beaucoup de rebondissements, et comme vous le disiez en début d'émission, de suspense. Simplement, pour qu'on comprenne, et puis aussi parce que je voudrais pas qu'on croie qu'il y a une interprétation anachronique, c'est vrai qu'on va parler de violence, donc on le disait sexuelle, morale, psychologique, et même presque spirituelle dans ce texte. Qu'est-ce qui fait qu'on peut en parler aussi librement sans qu'on puisse penser que c'est une lecture anachronique? En quoi cette interprétation est possible, justement?
Il est certain qu'on ne peut pas vouloir faire dire à la Bible ce qu'elle ne veut pas dire, et on ne peut pas lui demander des réponses à des questions qu'elle ne se posait pas. À l'époque de la rédaction du livre de Daniel et de cette histoire de Suzanne, personne ne s'intéresse aux violences faites aux femmes, personne ne s'intéresse au consentement, d'ailleurs on le voit très très bien dans cette histoire, c'est pas la question. Donc cette histoire ne peut pas répondre à ça, et on ne peut pas penser que grâce à cette histoire, la Bible défend d'une certaine façon le consentement ou la liberté de la femme et le fait que la femme ne peut pas être violentée. Par contre, ce qu'on peut tout à fait y voir, c'est le respect de chaque personne. Il se trouve que l'héroïne est une femme, mais ce texte nous dit que Dieu écoute toutes les personnes qui lui font confiance, que Dieu est là pour aider et sauver les victimes, quelle que soit la victime, et qu'il est toujours du côté du plus faible. Ça, c'est quelque chose qui traverse toute la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament, et sur lequel, bien sûr, nous pouvons baser toute notre réflexion et notre interprétation.
Marie-Pierre Courneau, on écoute un extrait de ce chapitre 13 du livre de Daniel. Ça va nous donner aussi le ton de ce récit, et il est lu par Guillaume Galbon.
Lorsque le peuple s'était retiré vers midi, Suzanne entrait dans le jardin de son mari et s'y promenait. Les deux anciens la voyaient chaque jour entrer et se promener, et ils se mirent à la désirer. Ils pervertirent leurs pensées. Ils détournèrent leurs yeux pour ne plus regarder vers le ciel et ne plus se rappeler ses justes décrets. Tous deux brûlaient de convoitise, mais ne se l'avouaient pas l'un à l'autre, car ils avaient honte d'avouer leur désir de s'unir à elle. Ils guettaient le jour favorable lorsque Suzanne entra comme la veille et l'avant-veille, accompagnée seulement de deux jeunes filles. Il faisait très chaud, et elle eut envie de prendre un bain dans le jardin. Il n'y avait personne, en dehors des deux anciens qui s'étaient cachés et qui l'épiaient. Dès que les jeunes filles furent sorties, les deux anciens surgirent et coururent vers Suzanne, et lui dirent « Les portes du jardin sont fermées, on ne vous voit pas, nous te désirons, sois consentante et viens avec nous. Autrement, nous porterons contre toi ce témoignage. Il y avait un jeune homme avec toi, et c'est pour cela que tu as renvoyé les jeunes filles. » Suzanne dit en gémissant « De tous côtés, je suis prise au piège. Si je vous cède, c'est la mort pour moi, et si je refuse de céder, je n'échapperai pas à vos mains. Mieux vaut pour moi tomber entre vos mains sans vous céder, plutôt que de pécher aux yeux du Seigneur. » Alors Suzanne poussa un grand cri, et les deux anciens se mirent à crier contre elle.
Alors on l'entendait, on est au début de ce chapitre 13 du livre de Daniel. C'est un piège qui lui est tendu, et ce qui est étonnant, c'est au fond cette préméditation ou cette convoitise qui les brûle. Il est dit que la convoitise les brûle, c'est une question de désir. Comment vous l'interprétez-vous, ce passage?
Eh bien, je pense que malheureusement, c'est quelque chose de très très courant. Et que ces deux hommes sont pleins de leurs désirs, ils ne se posent à aucun moment la question, alors qu'ils savent très bien qu'on parle de leur honte, et du fait qu'ils n'osent pas regarder le ciel, mais à aucun moment ils se disent que ça justifierait de ne pas poursuivre.
Oui, il y a la question de la perversion du regard, en tout cas de la perversion de leur cœur, c'est-à-dire que n'étant plus tourné vers Dieu, alors c'est comme si il y avait une possibilité de moins respecter l'autre.
Tout à fait, et d'ailleurs ils ne respectent pas un des commandements du décalogue hein, qui dit que tu ne prendras pas la femme d'autrui.
Il y a une injonction aussi dans ce texte. Nous te désirons, sois consentante et viens avec nous. On est obligé de s'arrêter sur ce terme de consentement parce que c'est vrai que c'est contemporain, mais il est dans ce texte. Est-ce que c'est le même sens? Sois consentante et viens avec nous. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire?
Bah, ce serait quand même beaucoup plus simple pour eux si elle était d'accord et si elle se débattait pas, par exemple. Donc, voilà, il lui suggère, c'est terriblement vicieux. Il lui suggère que ça serait quand même beaucoup plus simple si elle était d'accord. Elle n'a qu'à être d'accord. Et d'ailleurs, quand il lui propose de choisir elle-même entre être violée ou être condamnée pour adultère, ça veut dire que, en plus, elle va être responsable elle-même de son viol ou de son accusation d'adultère. Ils lui font porter à elle la responsabilité et presque ils lui font porter la faute, en fait. Hein. Ils se déchargent sur elle. C'est pas eux qui prennent la décision. Eux, ils y sont pour rien. C'est elle qui a choisi.
Oui, alors il y a aussi la question de la qualification de ce qu'ils font parce que si on lit bien au tout début. Au verset 5, « Ils étaient de ceux dont le Seigneur a dit, le crime est venu de Babylone par des anciens, par des juges qui prétendaient guider le peuple. » Est-ce que c'est une forme pratiquement d'accomplissement de l'écriture aussi? Est-ce qu'on peut parler de cela? Est-ce que le fait de nommer cet acte comme un crime, c'était quelque chose qui, comme vous le disiez, était peut-être au courant et donc devait arriver quelque part? Ça devait se passer?
Ah ben, je pense que ça se passait. Oui, ça certainement. Ces récits n'inventent rien. Hein. Ils prennent le quotidien, les actualités, si on peut dire. C'est pour ça que ça parle aux personnes à qui ce texte était destiné.
Parce qu'on parle aussi d'ailleurs dans la suite à ces femmes de Juda qui, elles, finalement, laissaient faire. Il en est question dans la suite du texte.
Ah mais tout le monde laisse faire. Tout le monde. Même sa famille qui est persuadée qui pense bien qu'elle n'y est pour rien. Mais tout le monde laisse faire. Il n'y a aucune voix contradictoire qui s'élève, sauf Daniel.
Alors, sauf Daniel, on y reviendra. Je voudrais qu'on comprenne ce qui est bousculé dans cette histoire. Il y a cette institution de la justice. Il est question de la loi de Moïse. Alors, est-ce que la loi de Moïse est juste ou pas juste? Qu'est-ce qui est reproduit dans la loi de Moïse au cours de cette histoire?
Alors, directement, on peut dire que les deux juges ne respectent pas un des versets du livre du Deutéronome qui dit qu'on ne peut pas faire de faux témoignages, qui est d'ailleurs repris dans le Décalogue. Mais à un autre endroit du Deutéronome, c'est plus précisé, c'est un peu plus long, et on dit même que les personnes qui font des faux témoignages, eh bien, il faudra les traiter comme ils avaient l'intention de traiter la personne qu'ils accusent. Et c'est là qu'on parle de œil pour œil et dent pour dent. Et c'est ce qui se passe, hein, puisque à la fin, ils voulaient condamner Suzanne à mort. Et finalement, c'est eux qui vont être tués.
La condamnation qu'ils demandaient sera retournée contre eux. Ça, c'est la loi de Moïse.
Tout à fait.
Œil pour œil, dent pour dent. Alors, ce qui est renversé aussi, c'est au fond l'autorité, la sagesse des anciens. Ceux qu'on perçoit ici comme étant les anciens, les deux vieillards vont...
Voilà, et ça permet de mettre Daniel au premier plan et d'expliquer que malgré sa jeunesse, son peu d'expérience, il a, pourrait-on dire, une ligne directe avec Dieu. C'est Dieu qui lui inspire de prendre la parole, alors que Suzanne, elle n'avait jamais pris la parole, personne ne lui avait demandé. Il y a une espèce d'invisibilisation totale de Suzanne, on lui demande jamais sa version. Elle ne peut que crier vers Dieu, elle ne peut même pas parler aux êtres humains, elle ne peut que parler à Dieu, et c'est Daniel qui va se faire l'intercesseur, et c'est lui qui va représenter la voix de Dieu, et lui, évidemment, tout le monde l'écoute, puisque c'est un homme.
C'est un homme, mais il est seul, parce que c'est vrai que faut rappeler que dans la justice, le témoignage vaut parce qu'il y a deux témoins, et ça suffit à faire justice. Voilà. Or là, il est seul.
Il est seul, mais il est reconnu par tout le monde comme étant quelqu'un de très très grande valeur. Et du coup, sa parole est entendue. Et c'est ça qui permet, à la fin de cette histoire, de mettre Daniel en avant. C'est une histoire qui est écrite pour expliquer que Daniel est quelqu'un d'extraordinaire.
Et puisqu'on parlait de réputation, il y a aussi la réputation de Suzanne. Il y a la réputation de Joachim qui est là aussi troublée en quelque sorte, puisque ces deux anciens sont régulièrement dans la maison de Joachim, donc quelque part il y a une reconnaissance, une réputation. Et celle de Suzanne, elle est aussi touchée parce qu'on lit que ses serviteurs sont choqués Au début, ils croient la version des deux vieillards et ils sont choqués de l'attitude de Suzanne.
Tout le monde y croit. Et ça, je pense que ça nous interpelle aussi. Hein. Tout le monde y croit. Joachim, on peut penser qu'il connaît bien son épouse. Bah, il met absolument rien en doute. Les deux juges âgés, ils sont clairement en position d'autorité. Hein. Et donc, personne ne met leurs paroles en doute. Et voilà, ça nous interroge aussi, nous, quand on entend des accusations, quand on acquiesce à des choses comme ça, est-ce qu'on est capable de remettre les choses en doute, de vérifier les sources, de se poser des questions, d'aller plus loin que ce que tout le monde dit? Et l'accusation des deux juges, elle se fait en public. Hein. Ils ont ameuté tout le monde. Il y a tout le monde qui est là. C'est un espèce de lynchage public, si on peut dire. Et moi, ça me fait exactement penser à ce qui se passe actuellement sur nos réseaux sociaux. C'est-à-dire que plus il y a de monde qui a une opinion, plus les autres sont d'accord avec cette opinion.
Vous voulez dire que c'est la masse qui fait la vérité ?
C'est la masse qui fait la vérité, tout à fait.
Et là, Daniel, lui, va s'opposer. Il va crier, d'ailleurs, au moment du cortège, puisque tout le monde se dirige vers cette condamnation à mort. Ça y est, ça a été décidé. Suzanne sera condamnée à mort. Elle est reconnue coupable parce que les deux anciens l'ont dit. Et Daniel, c'est celui qui va s'opposer à ça. Ouais.
Tout à fait. C'est lui qui arrive à s'opposer à tout le monde. À renverser complètement la situation.
Et d'où vient sa légitimité ?
Ils disent « Dieu t'a donné le privilège des anciens ». Il est reconnu déjà, on ne sait pas comment, il est déjà reconnu par tout le monde comme étant quelqu'un d'une valeur particulière, qui a un lien spécifique avec Dieu. Il a déjà une place très particulière.
Et David va opérer autrement, et c'est là aussi où l'institution de la justice est bousculée, c'est qu'il refuse qu'il y ait un témoignage unique.
C'est ça, et il leur dit « vous n'avez pas bien fait le procès », et d'ailleurs on était parti là jusqu'au lieu de l'exécution, à mort, mais là on retourne à l'endroit où a lieu le procès, parce qu'on recommence, vous avez mal fait, ça n'est pas possible d'avoir interrogé ces deux vieux ensemble, donc vous allez les séparer, je vais les interroger séparément, c'est ce qu'il fait, et les témoignages ne sont pas concordants.
Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Daniel appelle le passé des deux juges. C'est-à-dire qu'il convoque la façon dont depuis des années ils jugent, la façon dont depuis des années ils se comportent. Toi qui as vieilli dans le mal, verset 52, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables. Alors que le Seigneur a dit, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Quelle est cette justice que prône Daniel ?
Alors, il prône d'abord le fait de mettre en évidence qu'il y a des personnes qui font mal leur travail, mais qu'on les remet jamais en question parce qu'ils sont des figures d'autorité. Et puis aussi le fait que quand on fait des choses mal, généralement, on en a déjà faites et on va encore en faire.
Et donc Daniel, ici, il invoque quelle justice ? Parce que la justice de Dieu sur Terre, elle doit être répercutée à travers des hommes. Comment est-ce qu'il peut, lui, imposer son jugement ? Qu'est-ce qu'il fait pour l'écouter ?
Il en appelle au texte biblique. Il en appelle à la loi de Moïse, en disant « vous ne respectez pas la loi de Moïse ».
La question aussi autour de ce texte, c'est celle de la foi de Suzanne en Dieu, qui, c'est un peu comme un effet de miroir. Elle va continuer à espérer en Dieu, tandis que les autres, au contraire, détournent leur regard du ciel. Jusqu'où son espérance va-t-elle porter ? Jusqu'où est-ce qu'elle est fidèle, au fond, à Dieu ?
Alors, mais jusqu'au bout, elle n'attend que de Dieu. Elle, à la fin, elle dit « je ne peux me tourner que vers toi, Dieu, parce que toi, tu sais la vérité ». Et oui, on peut être sûr que Dieu sait la vérité, il sait sonder les cœurs. Lui, il sait qu'elle n'est pas coupable, qu'elle n'est coupable de rien. Et finalement, pour Suzanne, c'est le plus important.
Marie-Pierre Courneau, ce texte, il vous a interpellé et il a quelque chose qui résonne effectivement avec notre époque. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il peut nourrir aussi notre réflexion aujourd'hui ?
Ce qui se passe aujourd'hui sur le sujet des violences faites aux femmes ne date pas d'aujourd'hui. Ce texte reprend exactement tous les scénarios qu'on connaît très très bien. On nous dit à plusieurs reprises que Suzanne est belle, évidemment, parce que ce qui lui arrive, c'est de sa faute. On nous dit qu'elle est très croyante, c'est pour ça que finalement, à la fin, on veut bien croire sa version. Voilà, les personnes qui l'abusent sont des personnes d'autorité, dont on n'a jamais remis en question le comportement alors qu'il y avait matière à le faire. Voilà, et je pense que ce texte met en évidence toutes les choses sur lesquelles on peut s'interroger de nos jours.
Est-ce que vous diriez qu'il y a aussi un enjeu spirituel qui est porté par ce texte et quel est-il ?
Alors, évidemment, l'enjeu spirituel, c'est de dire que Dieu est à côté de Suzanne, puisqu'il lui envoie Daniel, en fait. Dieu lui envoie Daniel pour la sauver. Alors, c'est pas l'image d'un Dieu tout-puissant, parce que le Dieu tout-puissant, il aurait empêché que les deux juges agressent Suzanne. Donc, c'est pas cette image-là, du tout. Mais c'est un Dieu, moi j'appelle ça de toute possibilité, c'est-à-dire qui est auprès de Suzanne et qui permet que la mise à mort n'ait pas lieu et que Suzanne soit finalement réhabilitée. C'est un Dieu sur qui on peut compter pour que la justice soit faite et pour être auprès des victimes, alors que les êtres humains ne le sont pas.
Y compris les plus proches du reste dans
cette
histoire.
Y compris les plus proches. Ouais.
Est-ce qu'on peut comprendre quelque chose du Christ ? Alors, on est dans l'Ancien Testament, on est dans le livre de Daniel, on est loin. Mais pour autant, est-ce qu'on peut comprendre quelque chose du Christ dans cette histoire ? Est-ce qu'on peut comprendre quelque chose pour nos communautés aussi aujourd'hui ?
Le Christ, justement, se fait le porte-parole, le représentant, l'incarnation de ce Dieu-là, ce Dieu qui est là pour être auprès des plus faibles. Et Jésus lui-même sera peu de temps après condamné à mort et dans la position de quelqu'un dont on ne comprend pas ce qu'il fait, dont on n'entend pas la parole, que l'on met à mort dans une fragilité totale.
Au fond, vous le disiez, le respect, c'est au-delà de l'histoire de la femme, en fait. C'est vraiment le respect de toute personne en situation de fragilité aussi. C'est le cas de Suzanne qui doit, on le sent, est seule dans cette histoire.
Tout à fait.
Alors, est-ce que vous diriez que ce texte, il a pu avoir une résonance ou bien est-ce qu'il est un peu perdu au milieu des histoires de Daniel ?
Alors, il a eu une résonance, je crois, très très importante, mais pas forcément là où on l'attendait. L'endroit de la réception du texte de l'histoire de Suzanne, c'est l'art, c'est la peinture. C'est un des textes de l'Ancien Testament qui a été le plus représenté par tous les grands maîtres, Rembrandt, Rubens, enfin tous ont peint des tableaux qui s'appellent Suzanne et les vieillards. Et ce qui est très très intéressant, c'est que dans la grande majorité des cas, Suzanne est au centre de la toile. Parfois, on voit même pas les vieillards où ils sont tout à fait au deuxième, troisième plan. Elle est très grande, elle occupe la majorité de la place de la toile, elle est nue, elle est offerte au spectateur. D'ailleurs, souvent, elle le regarde comme si elle était elle-même séductrice. Elle est généralement très illuminée avec un corps très blanc. Donc, il y a, semble-t-il, une opposition entre la pureté de Suzanne et puis le péché des vieillards qui sont toujours très sombres et dans un fond très sombre. Mais en même temps, c'est elle qui séduit clairement. C'est une façon aussi pour les peintres de séduire leurs spectateurs, c'est clair. Et comme la peinture a été, voire est toujours, une histoire d'hommes faite par des hommes pour des hommes, eh bien, on voit que les peintres, pendant des siècles, ont utilisé cette histoire, non pas tant pour dénoncer la violence faite à Suzanne, mais pour l'utiliser
comme une séductrice.
Comme une séductrice pour eux-mêmes faire vendre leur toile.
Est-ce qu'elle est présentée comme étant voilée ? Vous disiez elle est nue, parce que la question du voile, elle est aussi posée dans le texte. Elle arrive au tribunal, elle est voilée et les vieillards lui demandent de se dévoiler, de retirer son voile pour être vue. C'est une forme de deuxième humiliation en quelque sorte. Est-ce que sur ces toiles, on la voit voilée ou au contraire vraiment exposée ?
Non, elle est exposée. Elle est exposée et il faut pouvoir voir sa beauté, ce qui confirme aussi que tout ça, c'est de sa faute.
Merci beaucoup Marie-Pierre Courneau d'être venue éclairer ce texte de Suzanne présent dans le livre de Daniel au chapitre 13. Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France auprès de la paroisse de Montparnasse-Plaisance à Paris et ce texte est à retrouver, chapitre 13 du livre de Daniel. Merci à Pierre-Henri Pagé d'avoir assuré la réalisation de cette émission. À bientôt.